at the knee.
I used to be an adventurer like you, and I took an arrow in the knee.
That loser didn't stand a chance!
You were almost a jibbled sandwich.
Hey, listen!
Heroes never die.
Caught one.
The edge of the universe and back. Endure and survive.
Killing you and giving you good advice aren't
nothing is true. Everything is permitted.
Do a barrel roll.
Oh, cool, you tie.
Well, this is a tomb. I'll make them feel at home.
This is my favorite store in the Citadel.
Objection!
This world is mine.
What did I say?
Wait, wait, wait. That's not how it happened.
Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Une heure et des pixels, une émission réalisée et produite par l'association Pixel Up et diffusée sur Radio Campus Paris. Ce soir on vous retrouve pour une émission un petit peu chaotique, on a eu un peu de mal à toutes se retrouver, mais en tout cas, on se retrouve un peu en différé pour recevoir l'IA présidente de l'association Game Heure, donc on dit bonjour à l'IA du futur, et qui sera interviewé par l'inénarrable, l'indétrônable Azura. Coucou Azura.
Hello.
Mais ce n'est pas tout, on aura bien évidemment aussi les chroniques, à commencer par Alice, qui nous parlera d'un jeu un petit peu artistique, un petit peu culturel, inspiré par la Renaissance. Bonsoir Alice.
Bonsoir.
On passera ensuite à la chronique de Fanny, qui nous parlera de la nostalgie de la musique dans le jeu vidéo.
Bonjour, depuis une cathédrale.
Un parfait endroit pour nous parler de nostalgie. On aura ensuite la chronique de Marion, qui sera elle aussi en différé, mais on la découvrira avec vous pendant l'émission. Puis l'entretien, et enfin, je finirai cette émission par essayer de vous convaincre que non, le jeu vidéo n'est pas un art. Bref, c'est un programme assez chargé, je pense, pour ce soir, et je pense qu'on peut, on peut commencer très vite. Alice, à toi.
Merci beaucoup. Alors justement, tu parlais d'art, eh bien c'est un peu ma question aussi aujourd'hui, puisque je commencerai en affirmant que les vidéos, c'est culturel. Tels des troubadours comptant les exploits des chevaliers, les jeux vidéo tissent des récits qui reflètent le monde, ou en tout cas un monde, ainsi que des personnages, portant ainsi le fardeau de révéler des vérités sur la condition humaine et la société. En bref, ils sont politiques. Ils sont construits donc par une forme d'art, et j'attends avec impatience que tu nous donnes des arguments du contraire, d'art ou d'artisanat, je ne suis pas là pour faire des distinctions hiérarchiques en tout cas. Donc la musique, les images, les textes et le gameplay entrelacent leurs talents pour façonner des univers empreints de richesse artistique et culturelle. Imaginez donc, noble auditeur, un jeu vidéo où la violence symbolique atteint des sommets vertigineux, où les textes sacrés de la quête de Proust se mêlent aux mélodies enchanteresses de Chopin, tandis que les illustrations évoquent les scènes épiques des tableaux de Caravage. Bon, ça serait un peu le jeu symboliquement violent par excellence. Pour le gameplay, là, j'avoue que je n'ai pas d'idée. S'il existe naturellement une violence symbolique dans le monde du jeu vidéo, il me semble que nul canon, nulle forme artistique de gameplay, nulle forme classique de gameplay n'a encore émergé, n'ait encore été consacré. Peut-être un walking sim pour l'aspect non violent et réflexif, généralement prisé dans la culture dominante. Eh bien, le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui est proche de cette description. Les mélodies qui résonnent sont de Bach, Beethoven et Vivaldi, et les illustrations exploitent les chefs-d'œuvre de la Renaissance. Il ne s'agit pas d'un walking sim, en l'occurrence, mais d'un point and click, genre également apprécié par les bobos dans mon genre qui pensent ainsi délaisser l'ardeur des armes pour la subtilité de l'esprit. En l'an de grâce 1000 je ne sais pas combien, la guerre sainte prend fin, mettant un terme aux années de ténèbres, de pillages et de tumultes. Jean l'Immortel a libéré le Nord des griffes mécréantes de Pierre le Divin, ouvrant ainsi les portes à une ère de paix et d'harmonie. Mais Pierre le Divin s'est enfui, laissant dans son sillage l'ombre de la tyrannie et votre quête, ô vaillante guerrière du Nord, est de le traquer jusqu'au bout du monde pour y mettre fin. Une mission sainte, une quête de libération, à travers les sentiers semés d'embûches qui mènent à la capitale du Sud, vous serez la gardienne des opprimés, la protectrice des faibles, n'ayant pour compagnon que votre épée tranchante. Votre épée tranchante ? Ah, attendez quoi ? Non, oubliez tout ce que je viens de vous dire. Je vous ai parlé des musiques enchanteresses, des illustrations féeriques et du gameplay ingénieux, mais pas du texte. Car l'héroïne n'est pas une noble guerrière, mais une meurtrière assoiffée de sang. La guerre n'a point éteint sa soif de carnage, et désormais privée de sa liberté de tuer, puisque c'est la paix, elle négocie avec Jean l'Immortel un dernier meurtre, un tout petit dernier meurtre, celui de l'ex-tyran réfugié dans ses terres. Digne héritière des Monty Python, l'héroïne de The Procession to Calvary, créée par Joe Richardson et dévoilée en l'an de grâce 2020, possède le don éclatant de faire surgir l'absurde au cœur même des situations les plus solennelles, ou l'inverse. Non, même cela, c'est trop sérieux. Imaginez un monde où un chevalier se fait pigeonner par la Vierge Marie sur son âne, où il faut gagner The Renaissance Got Talent pour pouvoir soudoyer les gardes du roi, et ce concours ne se gagne que si vous sentez suffisamment fort le hareng, et où les fesses du diable ne seront satisfaites que si vous résolvez son énigme. On a donc bien les mécaniques classiques du point and click, les tableaux de la Renaissance, les musiques baroques et tout le tralala, mais le texte, l'histoire, l'animation des illustrations créent un décalage burlesque incroyable qui casse toute la portée sérieuse des grandes œuvres utilisées par ailleurs. Outre ce plaisir du décalage, les énigmes sont bien dosées dans leur complexité et mettent en lumière à la fois l'aspect absurde de cet univers pictural et forcément aussi un peu d'une autre. Mais diantre, n'avais-je point parlé d'une épée ? Merci beaucoup pour votre attention.
Merci beaucoup. Ouais, c'est vrai que j'avais pas pris le temps d'y jouer encore, mais tu m'as redonné envie. C'est vrai qu'il y a un peu ce côté, ça m'a fait penser, tu parlais justement de, on reprend un peu tous les codes de la culture dominante, tout ce qui peut être quasiment de la violence symbolique, comme tu le dis très bien. Et c'est presque un côté contre-culture qu'on voyait moins ces 10 dernières années dans le jeu vidéo, qui restait toujours très présente, par exemple, dans le jeu vidéo japonais. Mais avec à la fois le triple A qui est devenu le triple A, l'indé qui essayait d'avoir ce côté très artistique, etc. Le côté très contre-culture est presque passé un petit peu à la trappe ou en second plan. Et c'est vrai que c'est cool de le voir un peu revenir avec The Procession to Cavalry. Hein. Et du coup, je suis curieuse. Et bien, du coup, merci beaucoup, Alice, pour ta chronique. Et on va passer à celle de Fanny. À toi, Fanny.
Alors, je vais essayer de la faire simple et directe. Parce que effectivement, depuis ma cathédrale, qui est en fait juste un nouveau salon, l'enregistrement est un peu compliqué. Et donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la nostalgie musicale qui m'a pas mal occupée ces derniers temps. Donc, je sais pas si vous êtes souvent nostalgique, mais moi, oui. Et je dirais même que, bon, je pense, comme pour beaucoup d'autres personnes, la nostalgie, c'est une des motivations premières dans mon travail. J'aime retrouver les jeux et les musiques que j'ai aimées, les décortiquer pour essayer de comprendre peut-être ce qui les a rendus aussi marquants. Mais au-delà d'un sentiment diffus qui nous berce entre la douceur d'un souvenir et la tristesse du présent, la nostalgie, c'est en fait un concept un peu compliqué et qui possède un certain nombre d'enjeux. Et ça fait quelques années maintenant qu'on voit passer de plus en plus de travaux sur le rapport entre le son et la nostalgie dans les jeux vidéo. Donc c'est un sujet qui est d'autant plus fascinant qu'il est en permanence d'actualité, vu qu'on vit aujourd'hui dans l'ère de la rétromania, qui ne date pas d'hier, qui n'a pas non plus attendu le jeu vidéo pour se manifester. Et que actuellement, depuis un moment déjà, toutes les vagues de remaster, de remake et de remise en valeur d'un certain patrimoine esthétique dans beaucoup de jeux nous permet de nous poser beaucoup de questions. Enfin, en bref, d'après Sébastien Ruiz-Garcia, on peut décrire la nostalgie comme une réponse émotionnelle, un sentiment de familiarité et une langueur pour un passé qui peut être aussi bien réel qu'imaginé. La musique est, si on reprend les mots de Jean Kelevitch, du même ordre que le temps, donc elle va littéralement enchanter notre temps triste et morne. C'est donc pas très étonnant qu'on lui prête une capacité à nous rendre particulièrement nostalgiques. Et dans sa thèse, mais aussi dans un recueil qui est intitulé Nostalgia and Video Game Music, Ruiz Garcia s'intéresse par exemple aux différents types de nostalgie existants et à la manière dont elles servent à inciter à la consommation de contenus paraludiques, c'est-à-dire totalement extérieurs au jeu. Ensuite, ça devient un petit peu moins romantique. Il applique notamment le concept de ce qu'on appelle la nostalgie synchronique et diachronique, qui a été créé par Svetlana Boym, pour différencier la nostalgie conservatrice, où je reste sur mon écran cathodique avec le bruit du souffle de la cartouche, sinon rien, de celle qui va au contraire accepter de célébrer la musique de jeu en revenant l'écouter de manière différente, qu'elle soit réarrangée dans des nouveaux jeux ou sortie de son contexte dans des enregistrements. Ainsi, il va identifier différentes stratégies plus ou moins conscientes pour nous pousser à la consommation à travers le son et la nostalgie. Le souvenir d'une expérience renforcée par la musique permet de constituer un capital culturel et de créer des canons, ce qui fait que le fait que cette expérience soit partagée par plusieurs personnes provoquerait un effet d'unissonance, renforçant le ressenti à la manière d'un hymne national et permettant ainsi de se regrouper autour de concerts et de défiler à l'écoute de la musique de Zelda. Mais quels souvenirs nous renvoient donc de la musique? Et dans quelles proportions sont-ils authentiques, ces souvenirs? dans un autre livre qui est intitulé « Popular Music in the Nostalgia Video Game, The Way It Never Sounded », donc la musique populaire et la nostalgie dans les jeux, la manière dont ça n'a jamais sonné, Andra Ivanescu explique que la réappropriation de la musique pop dans les jeux peut prêter à confusion, voire exploiter le fossé entre faux souvenirs et réalité de notre monde actuel, que ça soit pour brouiller les pistes ou pour tenir un discours critique. Par exemple, elle explique le culte d'Elvis Presley dans Fallout New Vegas, qui est une critique de la décontextualisation de l'enregistrement, mais elle pose aussi la question de quelle image du film noir nous renvoie les chansons de L.A. Noire, ou tout simplement elle se pose la question, les sons faussement vieillis sont-ils vraiment réalistes, et est-ce que toutes ces paroles, toutes ces musiques qu'on va entendre dans des contextes parfois approximatifs dans les jeux, ne nous enferme-t-il pas dans une vision faussée du passé et une forme d'idéalisation qui va impacter notre vision au final du futur. En bref, les questions de nostalgie dans le jeu vidéo ne sont pas simplement de savoir si on est heureux ou triste, ça va aussi poser beaucoup de questions d'un point de vue sociétal. C'était les lectures que je voulais vous partager aujourd'hui. Et voilà.
C'est vrai qu'il y a beaucoup, alors je le vois sur un angle très précis parce que je rebosse un petit peu sur le Gamergate, et il y a beaucoup de mobilisation justement d'une certaine nostalgie d'un temps passé où on allait chez son meilleur pote qui avait un peu plus d'argent que soi et qui avait une console de jeu et on passait une soirée et une nuit entière à jouer ensemble. Et il y a beaucoup de cette mobilisation d'une fausse nostalgie où au final c'était des temps qui n'étaient pas si confortables et pas si incroyables que ça pour justifier certaines. Enfin voilà, justement ce fait de réutiliser de la nostalgie. Enfin voilà, ce fait de réinterpréter, redonner d'autres sentiments et d'autres sens à ça. Et du coup, Andrea, tu avais une question?
Yes. C'est aussi pour rebondir sur la nostalgie. Je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais c'est vrai que la nostalgie dans le jeu, de toute façon, elle transparaît par tous les aspects d'un titre vidéoludique. Et aujourd'hui, on pourrait aussi parler de nostalgie du gameplay. Alors, pas forcément de la difficulté qui, à l'époque, était notamment utilisée pour rallonger les jeux, parce qu'un jeu qui n'était pas hyper difficile au début de l'histoire du jeu vidéo se finissait très rapidement. Mais moi, je pense notamment à toute la volonté de vouloir faire d'un jeu vidéo un film. Et justement, ça rejoint aussi la première chronique, donc de vouloir légitimer le jeu vidéo comme œuvre d'art. Je pense honnêtement qu'en... Là, c'est à titre personnel, mais qu'en 2024, on a un peu dépassé ça et qu'en fait, maintenant, on est quand même dans une autre dimension. Et aussi, rappeler ce qu'est un jeu vidéo en termes de gameplay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de jeux qui... Heureusement, on a, je trouve, en ce moment, une résurgence d'une certaine scène qui veut remettre en avant le gameplay. Mais on a eu toute une période où, en fait, pour que le jeu vidéo devienne aussi waouh que les films, il fallait que ce soit beau, qu'on n'ait pas de HUD, que... enfin bref, que ce soit un film interactif, hein, sans dénigrer le genre, mais c'est vrai qu'en ce moment, ça fait du bien d'avoir des titres qui se prennent peut-être moins au sérieux sur ce pan-là et qui reviennent plutôt sur le gameplay. Enfin, moi, je pense par exemple à des jeux, même des blockbusters dernièrement, enfin Final Fantasy VII, donc c'est Rebirth le dernier, qui, même s'il a une volonté d'être très beau, a un côté très cartoon qui fait écho à tous ces jeux japonais qu'on a pu connaître auparavant, en fait, donc d'avoir des scénarios assez sérieux et puis un gameplay très, très rigolo. Et puis il y avait également tout ce que voulait ramener le réalisateur de FF7 Rebirth, qu'il a dit à son équipe de faire une boîte à bento, donc avec plein de mini-jeux, donc de ramener du gameplay dans cette œuvre qui était davantage cinématographique, en tout cas dans sa première version de remake. Hein.
Alice, tu voulais aussi réagir ?
Oui, c'était par rapport à ce que disait Azura sur le retour d'une recherche de gameplay, entre guillemets, par opposition, sans que ce soit une opposition drastique à la narration. On va pas revenir sur la narratologie versus ludologie. Mais c'est aussi quelque chose que je remarque et que je trouve particulièrement intéressant. Où pour moi, il se trouve que c'est un peu tout le sujet de ma thèse, d'essayer de montrer qu'il y a aussi un gameplay de la narration et que c'est... et que c'est aussi là-dedans que c'est intéressant d'aller chercher. Et même en tant que passionnée de jeux narratifs, où pour moi c'est vraiment ce qui va faire tout l'intérêt d'un jeu dans mon goût personnel, il y a aussi tout un jeu sur le gameplay de la narration que je trouve extrêmement important. Voilà, donc c'est un peu à côté de la chronique de Fanny, désolée, mais c'était en réaction à ce que disait Azura.
Merci beaucoup Fanny. Et maintenant, je laisse la parole à la Marion du futur pour sa chronique.
Aujourd'hui, je vais vous parler du Trophée des Seniors. C'est une compétition de e-sport qui a été créée par l'association Silver Geek, qui est une association qui fait des animations de compétition à la Gamer Assembly à Poitiers, autrement appelée capitale de l'e-sport. Donc en fait, chaque week-end de Pâques depuis 10 ans, s'affrontent pour une compétition régionale des binômes de seniors qui participent chaque année tout au long de l'année à des ateliers dans leurs institutions, dans les maisons de retraite, résidences autonomie, EHPAD, etc., ou en se rendant dans certaines associations qui proposent des animations et des activités aux retraités dans leur quartier, par exemple. Donc, j'étais la semaine dernière à la Gamer Assembly et je vais vous parler aujourd'hui de la compétition qui est faite avec le jeu de bowling sur la Switch, initialement sur la Wii U. J'ai eu la chance de pouvoir échanger avec quelques seniors qui ont participé à ces ateliers et à cette compétition. Dans leur discours, on peut vraiment percevoir une forte motivation pour la compétition, à l'instar de ce qu'on peut entendre du côté de tous les e-sportifs. On peut remarquer, en fait, à écouter ces différentes personnes, que les entraînements sont réellement investis par les seniors. Et la qualité des entraînements est rattachée autant au nombre de résidents présents, qui est préféré faible, qu'à la répétition des séances qui est souhaitée importante. Louise et Jeanne sont en train de discuter. Louise m'explique. Faut pas être nombreux si on veut y arriver au bowling. Avant, on était 6 ou 7, et maintenant, quand on continue, on est 4. Mais quand on veut aller jusqu'au bout, il faut pas qu'on soit 10 ou 6. Hein. Jeanne répond, bah oui, moi, de toute façon, je remplace. Louise lui dit, mais maintenant, on est 4, donc... Si vous êtes remplaçante, toutes les deux, avec l'autre collègue, bah par exemple, si dans la salle on se trouve mal, c'est vous qui allez continuer. Ces personnes âgées, qui ont souvent entre 70 et 100 ans, montrent vraiment leur attachement au jeu. Il ne suffit pas d'observer les autres, par exemple dans les ateliers, mais vraiment de s'entraîner avec un entraînement qui passe par l'action. Les seniors revendiquent la qualité du jeu pendant les ateliers, ce qui permet de comprendre qu'il ne s'agit pas juste d'une activité prétexte pour sortir de leur chambre et être avec d'autres personnes dans l'établissement, mais vraiment quelque chose qui est très très investi. Louise, par exemple, me dit « Quand on est trop nombreux, l'après-midi, on ne joue que deux fois, donc si vous voulez, c'est pas très intéressant. » Et c'est bien le caractère compétitif qui ajoute, semble-t-il, une plus-value à la motivation des seniors. Mais cela crée aussi une inquiétude par rapport aux résultats. Même si, consciemment, quand j'interroge ces personnes âgées, elles disent bien que perdre ou gagner, c'est pas grave. Louise, par exemple, qui dit que si elles ne sont pas entraînées de avril à septembre, elles savent pas ce que ça va donner. Et elle explique qu'elle a peur de perdre son niveau, que ça serait bête dans le fond. Ainsi, les compétitions amènent les personnes âgées à dépasser leurs limites. Elles sont en plus poussées par de jeunes bénévoles en service civique qui sont là pour les accompagner. Louise explique que des fois, elles y arrivent, et puis d'autres fois, pas, mais qu'elles s'y tiennent vraiment toutes les semaines, tous les jeudis, elles viennent s'entraîner. « On voit les points, vous savez, » me dit-elle, « on voit les scores, on voit qui est premier, deuxième, etc. » Il y en a des plus fortes que nous, par exemple, qui sont à l'EHPAD. Il y avait une dame très forte. « Mais moi, » m'explique-t-elle, « avant qu'il y ait le Covid, il y avait une compétition régionale, donc la fameuse Gamer Assembly. » Et j'avais été sélectionnée avec un monsieur qui avait déjà 94 ans environ. J'y suis allée, mais il y avait d'autres résidences, d'autres villes, d'autres foyers. Ils étaient très forts et nous on débutait. On savait pas, mais on a quand même été à la finale. Elle est très très fière de me raconter ça. Je vous livre quelques éléments justement concernant cette finale. Louise explique son meilleur souvenir. C'était quand les jeunes ont fait la hola pendant qu'ils l'entraînaient. Et ils se sont vraiment donné du mal. L'animatrice avait dit « on va faire la hola et puis vous allez gagner ». Et puis en plus, il y avait tous les pads qui regardaient, alors ça faisait quand même quelque chose, c'était très motivant. Autre exemple, avec Marie qui raconte son vécu aussi de la compétition. Elle m'explique qu'il fallait être bon pour la structure, parce que s'ils étaient sélectionnés, c'était quand même pas rien. Parce que, après la première manche, les petits jeunes, comme elle le dit, les services civiques, étaient là et puis leur ont dit « vous êtes bien partis ». Mais les autres dames de l'autre résidence étaient plus fortes qu'elle. Marie poursuit les récits. La première partie, j'étais très bonne et le monsieur avec qui je jouais a fait pas mal de strikes. Alors on avait, lui il avait 196 et moi 191. Donc tout le monde disait « vous êtes bien partis pour avoir la fidèle ». Et puis la deuxième partie, bah j'ai fait que 150 et quelques, et lui un petit peu plus, je sais pas exactement, dans les 180... Mais il a pas fait les 196 comme au premier. Bon, on n'a pas gagné, mais c'est pas grave. J'étais contente parce que je voyais que eux, à l'EHPAD, ils étaient contents. Et ça m'a fait plaisir parce que si on avait vraiment tout perdu, si on avait été troisième par exemple, ça aurait peut-être pas été bien. Alors pour conclure par rapport à ça, ce qu'on peut voir, c'est que ce qui est important dans les paroles de ces personnes âgées qui ont participé aux compétitions et au final, comme à la Gamer Assembly, et vous avez aussi une autre finale du Trophée des Seniors chaque année à la Paris Games Week pour la finale nationale, ce qui est important, c'est vraiment la reconnaissance pendant et après la compétition. Pendant la compétition, du fait de la présence des autres résidents, bien sûr, mais aussi des jeunes bénévoles, des services civiques, des personnels, des résidences, voire des familles, ou encore, ce qui leur fait très plaisir, les journalistes, reporters pour les télévisions locales. De même, comme l'évoque la sociologue Gabrielle Lavenir, les applaudissements du public qui ne connaît pas les joueurs ont vraiment une résonance particulière et plus forte que les bravos des proches et membres de la famille. Mais la reconnaissance est aussi attendue à l'issue du fait des récompenses symboliques qui marquent les résultats et qui sont rendues visibles longtemps, les scores mais aussi les trophées, les dossards qui sont souvent exposés dans leur maison de retraite par exemple, dans leur chambre ou dans le hall par exemple des établissements. Donc on voit qu'il y a vraiment une place qui est donnée à ces personnes âgées et ça à partir du jeu vidéo, à partir notamment ici du bowling sur la Switch.
Et merci beaucoup Marion. Après toutes ces chroniques passionnantes, je pense qu'il est temps de faire une petite pause et on va donc s'écouter Rainbow Overload, un morceau de Keiichi Hirokawa pour la BO de Foam Stars.
place where you can shimmy shake, take the cake. I know a place where all your worries will be washed right down the drain. Oh, come to the place where a party's always starting. Come to the place where you can get away, it's okay. Come to the place where our past not throwing caution out the window. Here we go. Kick off your blue shoes, let's go crazy and do what you like. The heat is rising, are you ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, take go. The storm is over, sun is shining, a whole world's waiting. Now throw the brave, we'll soar and smiling, fine, red, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Come over closer and now stop, look around and stop, listen. Just look around and stop, listen.
Écoutez Une heure et des pixels sur Radio Campus Paris, et tout de suite, l'entretien avec l'invité.
Bienvenue Lia, tu es présidente de l'association Gamer, une association loi 1901, créée en août 2017. C'est une association ayant pour but de promouvoir la mixité, la diversité et l'inclusion dans les domaines du jeu vidéo, de l'audiovisuel et de l'e-sport. Vos actions regroupent la sensibilisation, l'information, la participation à des événements comme la Delphes Festival que vous avez co-organisé avec d'autres associations, ainsi que l'organisation de tournois mixtes et d'autres collaborations. C'est bien cela ?
Tout à fait, oui. Merci beaucoup pour l'invitation.
Merci à toi d'avoir accepté. Tu es aussi étudiante en master de psychologie sociale et interculturelle qui se concentre sur les dynamiques de groupe ainsi que les relations entre des groupes distincts. Tu joues depuis tes 13 ans, notamment à des jeux en ligne tels que League of Legends ou Genshin Impact plus récemment, et toujours aujourd'hui. Et tu as également rejoint plusieurs équipes amatrices de League of Legends durant ta carrière de gameuse, on va dire ça comme ça. Est-ce que c'est à peu près tout, ou il y aurait des choses que tu pourrais rajouter à ce déjà très long CV en réalité ?
Alors c'est un très bon résumé. Je vais juste faire une petite correction par rapport à mon statut d'étudiante. Donc j'ai acquis récemment, donc en septembre dernier, mon master en psychologie sociale et interculturelle. C'est tout à fait juste, sauf que je l'ai terminé. Et cette année, j'ai décidé de m'engager dans un nouveau master en psychologie du travail et des organisations. Parce que je m'intéresse tout particulièrement, notamment aux questions de diversité, mais j'aimerais m'intéresser tout particulièrement au domaine du travail.
D'accord, donc gros projet en perspective, hein. Ce n'est pas rien hein, de s'intéresser au travail pour le coup.
Exactement.
Et de toutes les problématiques qui peuvent y être associées, notamment en termes, tu le disais, d'inclusivité. Donc on va revenir en arrière, au tout début. Donc, comme je le disais, tu as commencé à 13 ans, et j'aimerais revenir sur ton profil de joueuse, et aussi comment tu as été amenée à être une joueuse sur Internet, on va dire, il y a un moment, je ne me suis pas permis de demander ton âge, mais entre le moment où tu as commencé à jouer et aussi le moment où tu as joué sur Internet, il y a certainement eu une évolution entre-temps. Et donc, au départ, qu'est-ce qui t'a amené donc, déjà aux jeux vidéo et petit à petit, en fait, à ensuite vouloir jouer sur Internet, à participer donc, à des jeux, on va dire, multijoueurs en ligne slash compétitifs. Parce que bon, bah, League of Legends, il y a un aspect compétitif, quoi qu'il arrive, à partir du moment où on joue avec d'autres joueurs. Et ensuite, de fil en aiguille, à arriver jusqu'à l'associatif et à d'autres domaines liés aux jeux vidéo, mais qui, on va dire, dépassent le simple statut, entre guillemets, de gameuse, de joueuse.
Alors, au tout début de mon histoire en tant que joueuse, les premiers jeux vidéo auxquels j'ai joué, alors si je dis pas de bêtises, donc c'était le jeu des Super Nanas. Je me souviens bien de celui-là, parce que j'étais fan du dessin animé. Et donc, c'était pas du tout un jeu en ligne, c'était sur CD. Le vieil ordinateur de mes parents qui pesait 2 tonnes, bien mis au grenier d'ailleurs, déjà ils avaient anticipé le changement. Et donc là, je devais avoir à peu près 6 ou 7 ans. Et puis, disons qu'au-delà de ma passion pour certaines œuvres ou certains univers, je pense que ce qui m'a motivée à jouer aux jeux vidéo au tout début, et ce jusqu'à maintenant d'ailleurs, c'est de pouvoir jouer avec mes proches, alors avec autant des membres de ma famille que des amis. Donc je me rappelle par exemple que je jouais beaucoup à des jeux sur la Nintendo DS, donc la première qui est sortie il y a déjà plus d'une dizaine d'années, quinzaine d'années. Je jouais principalement à des jeux multijoueurs ou bien des jeux solo, mais pour lesquels je demandais par exemple de l'aide à mes parents ou à d'autres proches. Comme je me rappelle des histoires de professeur Layton que j'ai adoré et pour lesquelles je demandais de l'aide à mon père, par exemple, pour résoudre les énigmes et tout ça. Alors, pour ce qui est des jeux en ligne, si je me souviens bien, j'ai commencé vers mes 10-11 ans parce que ma meilleure amie m'avait parlé de quelques jeux dont le principe était de chatter en ligne, de personnaliser son avatar, de rencontrer des personnes sur ces différentes plateformes de jeux. Donc il y avait notamment, alors si je dis pas de bêtises, il y avait Movie Star Planet, je pense que c'est le premier auquel on a joué. J'ai vu qu'il existait encore, mais il a un petit peu évolué. Et il y en a un, je sais qu'il n'existe plus, c'est Comity. C'était un chat 3D. Virtuel à nouveau, on pouvait se balader dans un petit monde et juste faire connaissance avec d'autres personnes et discuter entre nous. À la limite, on pouvait même presque faire du RP dans ce cadre-là, jouer un rôle, tout ça. C'était vraiment sympa. Et alors, un peu plus tard, de nouveau, par recommandation d'amis que j'ai rencontrés en ligne notamment, et puis ma meilleure amie aussi, mais oui, moins à ce moment-là. Ça, c'était plus vers mes 12-13 ans. Là, j'ai commencé d'autres genres de jeux, notamment un MMORPG qui s'appelait Dragon's Online. Et puis, j'ai entamé ma fameuse carrière amatrice sur la Ligue des Légendes. Là, je devais avoir 14 ans, des amis dans ma classe à l'école qui m'avaient motivée, qui m'avaient convaincue de rejoindre ce merveilleux jeu auquel je ne trouvais aucun sens au départ en les regardant jouer. Et puis, quand j'y ai touché moi-même, j'ai trouvé ça super drôle. Et donc, ça, disons que c'est un peu mes débuts en tant que joueuse, qui se sont poursuivis principalement sur LoL, quelques autres jeux, jusqu'à Genshin plus récemment. Alors, sur League of Legends, évidemment, ce que j'aimais bien, c'était vraiment le fait de jouer en équipe. Et j'ai désiré, à partir de... vers 2018 ou quoi, j'ai vraiment voulu m'engager davantage. Je pense que j'avais différents enjeux, en tout cas des enjeux qui ont évolué avec le temps. À la base, je pense que je jouais surtout pour le plaisir d'être avec les autres, le plaisir de rencontrer des gens. Et puis par la suite, j'ai joué aussi un peu pour moi en tant que joueuse, curieuse, avare de progression, de développement, etc. Donc j'aimais beaucoup le principe de me fixer des objectifs individuels, mais aussi collectifs, et donc de rejoindre des teams, des équipes amatrices sur League of Legends. Donc ça m'a appris quand même pas mal de choses sur le jeu. Finalement, disons que malheureusement, malgré ce que je souhaitais, j'ai vécu certaines expériences négatives personnellement, notamment des comportements sexistes sur League of Legends ou d'autres jeux multijoueurs où il y a un chat ou bien où il y a un chat vocal. Et là, je me suis vraiment sentie touchée personnellement au niveau de mon identité de genre. Et du coup, par la suite, j'ai voulu m'investir personnellement, moi, mais aussi en tant que femme, dans une association porteuse de valeurs égalitaires et féministes. Je me cherchais moi-même et je cherchais aussi le réconfort de ne pas être seule, de partager quelque chose avec potentiellement des personnes qui vivaient quelque chose de proche ou de similaire à ce que j'avais pu vivre et un lieu de compréhension. Et puis surtout par la suite, je ne voulais pas que ça arrive à d'autres personnes. Donc voilà, je me suis retrouvée chez Gamer et maintenant ça fait un peu plus de 2 ans que j'y suis en tant que bénévole.
Et bah, c'est tout à fait honorable de ta part de vouloir protéger les autres et bah, que les choses évoluent, que ça ne se reproduise pas, parce que je pense malheureusement que beaucoup de joueuses et de femmes qui se sont, on va dire, rendues sur Internet, que ce soit via le stream ou le jeu en ligne, ont subi plus ou moins du harcèlement, ou tout du moins, en tout cas, le fait être critiquées sur différents aspects parce que ce sont des femmes et qu'aujourd'hui, bah, c'est très bien que des associations prennent le pas sur, comment dire, soit avoir un travail de pédagogie, soit au moins proposer des espaces safe pour que les personnes puissent quand même profiter de ces loisirs.
Je suis tout à fait d'accord et je suis très contente de voir aussi l'environnement associatif se développer, grandir et d'avoir une diversité aussi d'associations avec des sensibilisations, des valeurs proches, mais qui s'adressent parfois à des publics différents ou bien qui ont des actions différentes. C'est vraiment très très riche et très important.
Tout à fait. Et donc, tu disais que ça faisait 2 ans que tu étais au sein de l'association.
Oui.
Et qu'est-ce qui t'a amené à, on va dire, aller jusqu'au poste de présidente d'association?
Eh bien, je dirais, comme en fait, pour rebondir sur ce que je disais, donc au début, je me cherchais, à travers mon engagement, à travers mon engagement aussi dans certaines actions auxquelles je trouvais du sens, que j'ai organisées ou co-organisées, qu'on a réalisées avec plusieurs bénévoles de l'association, eh bien, j'ai réalisé que c'était très important pour moi, au niveau évidemment du partage de valeurs, la diffusion de certaines idéologies et de ces valeurs aussi inclusives, de diversité, respectueuses des autres, de tolérance, etc. Mais aussi que ça me faisait du bien à moi personnellement. Donc il y a vraiment ces deux côtés, je dirais, à l'engagement bénévole. Que ça nous nourrisse nous-mêmes et que ça ait du sens pour nous. Là, en tant que femme, du coup, à l'origine, et puis je suis sensible au féminisme interculturel, à la diversité, voilà, on a nos valeurs, enfin les valeurs de gamer ont même évolué alors que j'avais rejoint l'association, donc de mixité à diversité, voilà, nous sommes vraiment ouvertes à plus de choses, à des choses différentes. Et tout ce parcours, tout cet engagement m'a vraiment motivée à vouloir en apporter, disons, le plus, au maximum, je dirais en termes de quantité évidemment, mais aussi en termes de qualité. Et puis, surtout, pour moi, être présidente ou être au CA d'une association, pour moi, il y a derrière ça aussi un rôle de responsabilité de soutenir les autres, je dirais pas de montrer une voie, mais en tout cas d'encourager, de soutenir autant les personnes au sein de l'association, dans les actions entreprises et puis de travailler aussi main dans la main parce que c'est pas du tout une idée d'hiérarchie, il y a une différenciation des rôles, mais pour, en tout cas au sein de Gamer, c'est pas du tout hiérarchique. Et au-delà de ça aussi, de tout simplement représenter ses valeurs, représenter cet engagement, moi personnellement et aussi toutes les autres personnes qui sont soit à l'Assemblée Générale ou bien au bureau de l'association, et de même que les bénévoles qu'on invite évidemment à répondre aussi aux sollicitations extérieures d'autres associations, d'autres projets, d'autres organismes quand ça se présente.
Yes, je vais peut-être préciser pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Donc, on a utilisé le mot bureau. Donc, si vous n'avez jamais fait partie d'une association, en fait, une association, c'est composé de bénévoles. Et on va dire, cette association, il faut quand même que des décisions soient prises. Il y a des rôles clés dans les associations de type le gestionnaire de trésorerie, donc le trésorier de l'association, la présidence et le secrétaire qui, normalement, prend en note les différentes réunions qui sont organisées pour gérer l'association. Et donc, ces trois rôles constituent en général un bureau. Et en tout cas, c'est les rôles minimums pour constituer un bureau. Et ce sont donc normalement les instances qui... j'aime pas utiliser le mot diriger, mais en tout cas, organisent l'association, si cela te convient comme définition du bureau.
C'est un très beau mot, oui, c'est une belle définition.
Mais bien parfait. Et en parlant de définition, donc au tout début de cette interview, on a parlé donc de ton master en psychologie sociale et interculturelle pour les auditorices. Est-ce qu'il serait possible d'expliquer cette thématique et sujet traité par le master et donc, on va dire par définition aussi, expliciter les termes interculturels notamment que tu as pu employer?
Bien sûr. Donc... je dirais qu'en tant que psychologue sociale et interculturelle, évidemment, alors on s'intéresse ou on essaye de comprendre, parfois d'expliquer, comment les individus interagissent les uns avec les autres. Comment est-ce que nos identités sociales, par exemple notre identité de genre, ça peut être notre identité nationale, notre identité culturelle, justement, notre identité aussi générationnelle, etc., comment est-ce que toutes ces identités que chacun, chacune possède influencent notre rapport aux autres. Donc, comme l'exemple de l'interculturalité, on s'intéresse en fait aux relations intergroupes, donc entre différents groupes. Comment est-ce que ces groupes rentrent en contact? Comment est-ce qu'ils sont en relation ou non? Parce qu'ils peuvent être justement en séparation et ça peut être tout un développement, une histoire qu'il y a derrière. Souvent, quand on s'intéresse aussi à ces thématiques, on va, chercher ou travailler en collaboration aussi avec des sociologues, des anthropologues, parfois des personnes qui travaillent en histoire également. Donc on peut se poser aussi la question de qu'est-ce que une compétition ou une coopération entre ces groupes peut leur amener, peut leur apporter. Et donc on traite de la gestion des conflits parfois à ce moment-là. Et puis comme tu l'as mentionné plus tôt, on s'intéresse aussi aux dynamiques de groupe, c'est-à-dire aux dynamiques intra-groupe, à l'intérieur d'un seul et même groupe, donc comme le leadership, la cohésion de groupe, le poids des rôles et des statuts des personnes, et puis la communication, très importante, verbale, non-verbale, on peut investir plein de thématiques. Donc voilà, la psychologie interculturelle, elle s'intéresse tout particulièrement à l'influence de la culture sur déjà l'individu. Comment est-ce que la culture influence nos comportements, nos pensées, nos croyances, nos ressentis, nos affects? Et d'autre part, comment est-ce que, par exemple, des personnes ou des groupes de cultures différentes rentrent-ils en contact et comment ont-ils des liens entre eux, des relations?
Eh bien, merci pour cette définition et ces explications. J'aimerais revenir donc maintenant de nouveau sur l'association, qui est d'autant plus importante aujourd'hui que malheureusement, on a quand même de plus en plus d'études qui montrent qu'il y a un espèce de retour de vieilles pratiques, ou en tout cas une régression, on va dire, sur l'acceptation des femmes de manière générale. Enfin, je pense malheureusement que toutes les auditoristes qui nous écoutent voit un peu les évolutions de société et ce qui peut s'y passer. Et on va dire, malgré ce constat-là, est-ce que Internet est épargné et le jeu vidéo potentiellement devient de plus en plus accueillant pour les femmes ? Peut-être aussi parce qu'on revient de très très loin. Femmes ou, on va dire, comment dire, minorités au sens large.
Pour ma part, je me permets, je dirais pas qu'on régresse, je dirais juste que les choses se développent et changent. Dans le sens où, je vais juste parler du sexisme pour l'exemple, disons que les formes de sexisme et les comportements sexistes qu'on connaît aujourd'hui ne sont clairement pas, pour la majorité, les mêmes qu'il y a par exemple 20, 30, 50 ans et plus. Pour reprendre un peu des termes de psychologie sociale à qui j'emprunte certaines choses, à laquelle plutôt j'emprunte certaines choses, on pourrait dire qu'il y a 50 ans, par exemple, on était surtout dans un contexte où on faisait usage de sexisme hostile, c'est-à-dire de comportements qui sont littéralement, comme le nom l'indique, hostiles et à l'égard des personnes qui en sont les cibles, donc en général les femmes. Aujourd'hui, on parlerait davantage de femmes et de personnes gender fluides, non binaires, etc. Identité de genre diverse. Aujourd'hui, on est moins là-dessus. On en retrouve encore, on connaît le fameux « retourne dans la cuisine », etc., qui est un bon exemple, justement, du sexisme hostile, comme toutes les insultes qu'on connaît, etc., etc. Mais je trouve que aujourd'hui, et ce qui passe parfois entre les mailles du filet, c'est ce qu'on va appeler le sexisme bienveillant. Ce fameux sexisme où, en fait, derrière ça, il y a le fait qu'on soutient les femmes, par exemple, qui ont des comportements qui coïncident avec nos stéréotypes. Une femme, par exemple, qui, entre guillemets, reste bien à sa place, entre guillemets, comme on se la représente. Et donc, on va avoir des comportements qui vont, l'encourager à rester, entre guillemets, à sa place ou à continuer à avoir les comportements qu'elle a. Donc être gentil avec elle, lui faire des compliments, lui offrir des fleurs, etc. Je ne suis pas en train de dire qu'offrir des fleurs est sexiste dans l'absolu, évidemment. C'est vraiment contextuel. Donc non, continuer d'offrir des fleurs. En plus, les fleurs, c'est joli, ça sent bon, vraiment. Mais disons que si c'est dans un contexte, justement, où on a envie de, soutenir la personne dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle fait en tant que femme, parce que ça coïncide avec nos stéréotypes sexistes, alors à ce moment-là, c'est du sexisme bienveillant. Pareil pour ce fameux comportement, disons, où on a plutôt volonté que comportement, on a la volonté de protéger un peu, voilà, les femmes, par exemple. Là, à ce moment-là, de nouveau, on va avoir des comportements où on va essayer de prendre parti, entre guillemets, pour elle, de la défendre, etc. Mais le résultat, finalement, c'est que les femmes, à ce moment-là, dans ces situations, elles ne sont plus autonomes. Elles sont dépendantes de la personne qui prend leur défense. Alors évidemment, si elle est en grand danger, c'est normal d'aller aider autrui. C'est tout à fait normal, ça passe avant tout. Mais il y a clairement plein de contextes où c'est plus banal, où c'est nuancé, où le danger est, à nouveau, relatif, et où une femme peut se défendre clairement toute seule, prendre la parole d'elle-même, etc. On n'a pas besoin de le faire à sa place. Donc voilà, ça c'est pour moi en tout cas un point très important et parfois qui, comme je l'ai dit, passe encore entre les mailles du filet et n'est pas forcément reconnu comme étant du sexisme. Parfois même, au contraire, on a justement ce prétexte ou cet argument de « oui, mais c'est pour ton bien, oui, mais je suis ton côté, etc. » Et voilà, c'est plus, j'ai l'impression que c'est aussi un peu plus délicat parfois de l'aborder, de se faire comprendre, ou de pouvoir même l'expliquer. En fait, j'ai moi-même des difficultés à pouvoir peut-être être claire. Mais ça me tenait à cœur en tout cas de faire cette petite parenthèse. Après, par rapport à justement la question de est-ce que Internet est plus accueillant ou non, Donc, en tant que psychologue, j'aurais tendance à dire que c'est difficile à dire parce qu'accueillant, bah, ça peut l'être pour une certaine personne et pas pour une autre, évidemment, en fonction de nos ressentis, de notre curseur aussi de sensibilité. Donc, voilà, ça, c'est un peu difficile à dire. Mais en tout cas, pour ma part, je pense en tout cas que les individus sont de plus en plus éveillés. Ou en tout cas, ils ont les moyens de l'être, d'être plus informés sur les réalités, notamment liées à la violence, la discrimination, les injustices sociales qui existent dans le monde, mais aussi du coup en ligne, dans le monde virtuel et réel. Aujourd'hui, pour l'exemple, je pense que les entreprises de jeux vidéo, les groupes responsables de plateformes de streaming aussi, ont conscience, ou en tout cas peuvent avoir conscience, de ce qui est accueillant ou non. Et donc créer des contenus ou des options ou créer leur plateforme selon justement ce qui serait respectueux envers autrui. Alors du coup, aujourd'hui, pour moi en tout cas, plus personne n'a d'excuses pour ne pas faire preuve de respect ou d'inclusivité envers autrui. Et pourtant, les statistiques montrent que même les plus récentes, et il y en a eu des très récentes, les comportements violents, discriminants, notamment en ligne, sont très récurrents et ne diminuent absolument pas. Voire, on a l'impression qu'ils augmentent. Après, ça, il faut évidemment se méfier parce qu'on peut questionner justement à quel point est-ce qu'on peut récolter des données aujourd'hui par rapport à hier. Enfin, voilà. Il y a aussi un esprit critique à garder. Mais je ne pense clairement pas que ça diminue. Ça, c'est sûr à 99%. 99%. Donc pour moi, voilà, sur Internet, sur Internet globalement, mais en tout cas dans ces chiffres-là, pour moi c'était sur les jeux vidéo. Donc il y a clairement une violence, je pense, générale, mais aussi une certaine violence à l'égard de certains groupes en particulier, peut-être même plus qu'envers d'autres justement. Certains publics comme les femmes, les personnes non binaires, gender fluides. Donc de genre marginalisé, les personnes racisées, les personnes en obésité, les personnes grosses, les personnes âgées. Tant qu'il y aura ce genre de comportement, en tout cas, à l'égard de ces groupes, comme des individus, ces comportements seront toujours de trop. Qu'il y en ait un, ou mille, ou 100 000 sur une année, peu importe, ce sera toujours de trop. Et toute forme de comportement violents, discriminants, pour moi, doivent être sanctionnés pour éviter qu'ils ne deviennent banals et pour créer justement cet environnement accueillant. Donc, il y a aujourd'hui des outils de modération sur les jeux multijoueurs principalement, je pense, ou les jeux en ligne, sur les plateformes de streaming comme Twitch. Ils ont leur lot de défauts, clairement. Mais disons que, en tout cas, pour ma part, dans ma pratique du jeu vidéo, j'ai quand même observé des changements, des améliorations de certains systèmes de modération, où j'ai davantage, par exemple, de feedback, comme quoi une personne a été sanctionnée suite à ma plainte ou celle de plusieurs aussi personnes potentiellement. En tout cas, pour que Internet, les jeux vidéo, les plateformes de streaming, ou les communautés en ligne aussi, par exemple, pour qu'elles soient accueillantes, pour moi, il est primordial que tout le monde, que chacun, que chacune pense son rapport au monde, pense son rapport à soi et aux autres aussi. Et comment est-ce qu'on peut concrètement, par des actions, par des moyens, par une mise en place d'outils, comme des outils de modération, comment est-ce qu'on peut créer un environnement dans lequel chacune, chacun pourra se sentir respecté, reconnu, légitime, et évidemment exister, parce que c'est pas toujours le cas.
Eh bien, je te rejoins totalement. je pense qu'effectivement, il y a une évolution, en fait, et effectivement, une non-diminution, quoi qu'il arrive, et qu'il est important que les personnes prennent en compte les personnes dans leur globalité, et si possible, qu'un jour, ça s'améliore vraiment, enfin, en tout cas, que ça décroît drastiquement. Et comme tu le mentionnais assez rapidement, les plaintes peuvent quand même aboutir, même si c'est pas évident. Enfin, si on ressent le besoin de se défendre, il faut le faire, soit contacter le service de streaming, soit éventuellement passer par Les différents outils de prise de contact aussi qui existent sur les jeux en ligne. Donc quand je dis prise de contact avec la modération si elle existe. Hein. C'est aussi une thématique qui est abordée dans une conférence de la Game Developer... Non, c'est pas la Game Developer Conference, c'est Game UX Summit de 2022 par Rachel Cowart, Extremist in Games, et qui précise que aussi c'est le rôle des entreprises qui créent les jeux de créer les outils pour modérer, et si possible, même d'accompagner au maximum cette modération, parce qu'on a vu ces dernières années une augmentation des features d'interaction entre nous, entre humains sur Internet, mais par contre, une non-amélioration, une non-augmentation de tout ce qui était features, donc fonctionnalités qui permettent de modérer. On va dire vraiment de faire en sorte que l'espace soit accessible à toutes et à tous.
En tout cas, quand c'est possible, c'est très important de se plaindre, très important d'en parler quand on peut, quand on s'en sent évidemment prêt, prête. C'est aussi important de se respecter soi-même, je pense, de pouvoir s'écouter. Disons qu'en ligne, l'avantage, c'est qu'on est souvent dans l'anonymat aussi quand on se plaint, puisqu'on va directement se plaindre au système, par exemple, lié au jeu. On ne doit pas se déplacer jusqu'à un commissariat, donner son nom, et puis toute une panoplie de questions qui nous pèsent et puis qui font que les démarches sont lourdes. Là, c'est moins le cas. Donc, quand c'est possible, il faut absolument les mentionner et avertir.
Après ce sujet assez lourd, on va donc écouter une musique que tu nous as recommandée, qui vient d'une compilation de Genshin Impact, The Stellar Moments Volume 2. Qui est donc la soundtrack du jeu et qui est dédiée à un personnage en particulier, qui est donc le personnage de Utao. Alors moi, je n'y connais pas grand-chose en Genshin Impact, et le son s'appelle Any Last Words. Vous écoutez Une heure et des pixels sur Radio Campus Paris et on est de retour avec notre invitée, Lia, présidente de l'association Gamer. Et donc, Lia, pourquoi souhaitais-tu nous partager ce morceau ?
Ça me tenait tout particulièrement à cœur de faire écouter ce morceau. Honnêtement, pour être honnête, c'était difficile de choisir parce que j'aime vraiment beaucoup de musique, principalement de Genshin, je les trouve vraiment magnifiques. Mais disons que celui-là me parlait davantage parce que c'est un de mes personnages préférés dans le jeu. Après, j'avais décidé de base de proposer une musique de Genshin parce que ce jeu-là en particulier m'a apporté beaucoup de positifs durant les confinements. Parce que si je ne me trompe pas, il est sorti en 2020, ou quelque chose comme ça. Et disons que c'est un jeu où l'environnement, les visuels en particulier, m'ont vraiment permis de voyager, d'explorer des régions, des endroits. Finalement, à un moment, on était obligé de rester chez soi. Donc ça, c'était vraiment un point de bien-être très important. Dans cette période-là qui était assez difficile. Et puis, globalement, c'est un jeu qui me parle beaucoup parce que ça parle de politique, ça parle de conflit, ça parle d'intérêt, d'histoire aussi, je trouve. C'est très bien construit, l'intrigue est très riche, malgré certains, je trouve, défauts dans la représentation de certains éléments culturels, notamment, et le manque de diversité corporelle, mais qu'on notera dans la plupart des jeux encore aujourd'hui. Par contre, c'est vraiment un jeu qui est très très riche, malgré ça, du point de vue des régions, du point de vue des coutumes, des traditions, de la mode, etc. Cette diversité, dans les histoires, dans finalement certaines représentations en tout cas. J'ai trouvé ça aussi extrêmement, extrêmement positif. Et puis, c'est ce que je recherche aussi dans un jeu finalement. Et puis, le personnage du Tao, pourquoi ? Parce que pour moi, il est un petit peu... c'est pas un antagoniste, mais pour moi, il y a des... comment dire, il y a une certaine opposition, un certain clivage au sein de ce personnage, parce que c'est une dame qui est en charge d'un... Comment est-ce qu'on appelle ça ? J'ai le mot sur le bout de la langue. Donc, qui travaille pour une société donc, qui vend des cercueils. Je n'ai plus le mot.
Une société qui vend des cercueils ? Les oui. croque-morts ? Non.
Bah, enfin, alors, ça, c'est les personnes, si je dis pas de bêtises.
Oui, c'est mais, le nom des personnes. Mais oui,
c'est ça. Mais, du
les pompes funèbres.
Dire... Exactement. Voilà, j'avais plus le mot. Merci beaucoup. Mais oui, on pourrait dire que c'est une croque-mort. Et en fait, ça me... Comment dire, ça me touche tout particulièrement le fait qu'elle ait ce rôle-là, et en même temps que dans son attitude, en fait, elle soit super joyeuse. Et donc, j'adore, je retrouve vraiment, disons, la qualité humaine, quoi. Et moi, j'aime beaucoup ça.
Et bah, très bon choix original. Peut-être que ça me poussera à me mettre à Genshin Impact, mais j'ai l'impression que c'est un gouffre de temps. C'est ce qui m'en tient éloigné, honnêtement. Donc,
C'est vrai. Ça prend du temps. En confinement, on avait le temps.
Oui, aujourd'hui, c'est un tout petit peu plus compliqué. Et donc, on va retourner sur le sujet de l'association avec une dernière question. Donc, l'association, comme je le disais, Gamer participe à beaucoup d'initiatives. Le dernier en date étant un cross-event, donc l'Adelph Game Fest, où d'autres associations ont pu aussi amener des invités. Il me semble qu'il y avait, par exemple, Woman in Games. Et donc, est-ce qu'à l'avenir, vous avez prévu des événements similaires, donc de croiser des associations pour proposer à nouveau des tables rondes ? En fait, ma question, tout simplement, c'est peut-être quel événement de 2023 souhaiterais-tu évoquer dans ce podcast ? Et qu'est-ce que vous nous préparez pour 2024, on va dire, peut-être même de manière vague, sans spoiler ce qui nous attend au niveau communication de l'association.
Alors, durant l'année 2023, il y a eu vraiment pas mal de projets très, très riches et très importants. Pour moi, parmi les plus marquants, alors on a eu un projet de cycle de conférences qui a été réalisé au sein des locaux de Gaming Campus à Paris. Donc ça a eu lieu durant 3 mois, entre le mois d'octobre et le mois de décembre dernier. Donc c'était l'occasion d'y présenter des contenus diversifiés, variés, visant évidemment l'information et la sensibilisation du grand public, mais aussi des étudiants et des étudiantes de Gaming Campus Paris, à la diversité principalement, dans les jeux vidéo, le streaming et l'e-sport. On y a invité notamment certaines membres d'autres associations. On a invité une joueuse compétitive, oui, sur League of Legends. Donc l'occasion de également récolter certains témoignages durant ce cycle de conférences. Alors, on a été présent au festival Culture Manga à Dreux. Nous avions un stand là-bas, nous y sensibilisons les visiteuses, les visiteurs à nos valeurs, donc via des discussions, via quelques activités ludiques également. Alors l'année passée, on a également, en octobre 2023, on a eu l'occasion de co-caster ou d'animer sur notre chaîne Twitch un tournoi compétitif européen sur League of Legends, à destination uniquement d'équipes féminines. Donc, c'était un tournoi à échelle européenne, c'était le tournoi Pathfinders, 3e édition. Et donc, par rapport à l'univers compétitif, ou disons la scène e-sportive en tout cas, sur League of Legends, mais je pense également sur d'autres jeux compétitifs, eh bien, on peut vite s'apercevoir que le nombre de joueuses est assez bas, qu'il y a peu de diversité qui existe dans le domaine de l'e-sport. Et donc, pour nous, ça nous tenait vraiment très à cœur de pouvoir mettre à l'honneur justement les joueuses qui en font déjà partie, en tout cas à un certain niveau, et de leur donner un maximum de visibilité. Parce que ce tournoi était casté à l'origine uniquement en anglais, donc on a pu apporter aussi une visibilité dans une communauté francophone. Et puis faire connaître, évidemment, rendre plus visibles les joueuses, leurs équipes et ce type de compétition, de projet qui permet justement d'offrir davantage d'opportunités aux femmes et aux minorités de genre également dans l'e-sport. Le 25 novembre 2023, on a également organisé une émission Twitch sur les violences sexistes en ligne, en particulier dans les jeux vidéo et le streaming, puisque chaque 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Une émission à laquelle nous avons reçu des membres de l'association Witch Games, qui est un collectif belge qui lutte contre le sexisme dans les jeux vidéo. Donc là, c'était l'occasion d'illustrer, de donner des exemples de comportements sexistes, notamment bienveillants, qui existent et qui sont parfois récurrents, même en ligne, dans les jeux vidéo. Pour ce qui est de 2024, donc, ça me permet de faire la transition parce que notre dernier projet principal consistait à mettre en avant des femmes et des personnes de genre marginalisées qui travaillent ou qui sont passionnées, qui ont des activités liées aux jeux vidéo, à l'e-sport et au streaming. On avait commencé durant le mois de mars 2023 sous forme d'affiches sur nos réseaux sociaux. Et cette année, on va organiser pour chaque affiche une émission Twitch à laquelle on conviera chacune de nos invitées mises en avant pour pouvoir organiser un temps, un moment, un environnement aussi safe d'échange, de partage d'expérience, d'histoire de vie, justement, de ces personnes dont le point commun est justement ces domaines du jeu vidéo et du streaming.
Beaucoup, beaucoup d'événements et si des personnes qui nous écoutent souhaitent vous rejoindre, ça se passe sur votre site internet, c'est ça ?
Tout à fait, donc il y a le site internet de Gamer et pour suivre les informations concernant l'ensemble de nos projets, nos nouveautés, on est actif sur Twitter, X, Instagram également pour certaines actions. Sinon, on essaye de se mettre beaucoup à Blue Sky.
Eh ben merci beaucoup. Et si on veut te suivre, est-ce que tu as des réseaux où tu es active ou tu as déjà tellement de projets et de choses à faire que les réseaux sociaux, c'est moins ton... Tu es moins fan.
Pour ma part, je pense que je privilégie Discord et je suis toujours preneuse d'échanges, de débats. Je trouve ça primordial. Donc, principalement sur Discord, nous avons un serveur communautaire. J'y suis, donc, ainsi que les membres bénévoles de l'association. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, de discuter, débattre, poser des questions sur la diversité, l'inclusion dans les jeux vidéo, le streaming, l'e-sport. N'hésitez pas à nous rejoindre.
Merci beaucoup et merci pour cet entretien passionnant. Eh bien, il me semble que c'est l'heure de ma chronique et où je vais essayer de vous convaincre de la pire unpopular opinion que le jeu vidéo n'est pas un art. Mais bon, j'ai pas beaucoup de temps, alors je vais commencer par un exemple un petit peu précis. Il y a 20-25 ans, un groupe s'est formé entre universitaires et game designers, les ludologues. Les ludologues, ils voulaient qu'on étudie les jeux vidéo à l'université. Alors ils ont déclaré que les jeux vidéo étaient un art avec une spécificité, puisqu'il s'agissait de jeux, des systèmes de règles sur lesquels on agissait, qu'on apprenait et qui offrait certaines récompenses. Cette spécificité du jeu vidéo justifiait qu'on l'étudie à part et a été importante dans la création de départements de Game Studies. D'ailleurs, ces départements de Game Studies, on est bien d'accord, ça reste un héritage qui est cool. Même les courants de pensée un peu critiques de la ludologie, comme les procéduralistes, gardaient cette conception fondamentale pour la façon dont elle justifiait d'étudier le jeu vidéo. Il me semble que c'est Miguel Sicart, dans sa critique du procéduralisme justement, qui montre un peu ce lien entre cette conceptualisation et la justification face aux institutions. Seulement, quand les ludologues sont arrivés, les jeux vidéo étaient déjà étudiés à l'université, pas mal par des femmes d'ailleurs. C'est plus que cette façon-là de faire ne leur plaisait pas. Il leur reprochait de n'étudier que la dimension narrative des jeux et d'oublier leur côté ludique. Alors ils se sont construits en opposition à elle, en créant une controverse entre ludologue et narratologue. On a souvent raconté cette histoire, mais on oublie systématiquement une chose. C'est que celles qu'on appelait les narratologues, que les ludologues après les appelaient les narratologues, c'était pas des chercheuses qui se spécialisaient dans la narration. En fait, elles venaient du champ beaucoup plus large des cultural studies. Gardez ça en tête. Il y a quelques mois, je me suis penché sur un moment de la trilogie Mass Effect. Un choix que le jeu nous présente. Il y a un lent génocide de la population Krogan qui est en cours, et on peut choisir de l'arrêter ou de le laisser aller. Je me suis posé quelques questions là-dessus, et puis j'ai commencé à beaucoup lire sur le génocide, le colonialisme. Et un truc important, c'est que le génocide, il nous a forcé à faire face à une question, évidente mais aussi très dérangeante, on le verra. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Elle nous oblige à faire une archéologie de tout ce qui a pu construire d'autres êtres humains en monstres, de les transformer en monstres. Une archéologie de toute la propagande, de tous les savoirs aussi, qui ont mené à ça. Et ça m'a obligé à inverser la façon dont on étudiait Mass Effect. Parce que souvent, on regarde le système de jeu, on se dit qu'il nous pousse plutôt à arrêter le génocide, et que Mass Effect est donc une œuvre avec une belle morale. Seulement à côté de ça, je voyais tous les parallèles entre la façon dont Mass Effect se racontait et la propagande impérialiste, le comment on est arrivé là. Des parallèles avec la façon dont, dans le jeu, on nous amenait à voir les Krogan comme une population séparée, autre, étrangère, sur laquelle on avait un pouvoir, un droit de vie ou de mort. Et ça, en fait, ça aurait été impossible à analyser avec les conceptions traditionnelles du jeu vidéo. La ludologie, comme le procéduralisme par exemple, voit le jeu vidéo d'une façon assez classique. C'est un objet que le sujet essaye de connaître. Le sujet, c'est moi, le sujet de la phrase, l'objet qu'on essaye de connaître, c'est le jeu vidéo, ses règles. C'est safe comme conception, à peu près tous les philosophes font une variante de ça depuis Descartes, et même avant. C'est pour ça en fait que cette question, comment on en est arrivé là, elle a été un vrai séisme dans la philosophie du XXe siècle. On a été lentement obligé de réaliser que nous, les sujets de la phrase, on a été aussi en grande partie construits, pénétrés par toutes les normes, les habitudes, la société qui nous entourait. Ça a été un moment crucial pour comprendre le patriarcat, le colonialisme, le racisme et leurs effets. Devinez qui baignait déjà dans ces conceptions théoriques-là, les cultural studies. Et le dénigrement de cette tradition derrière des accusations très réductrices de narratologie, ça a tellement retardé notre compréhension du jeu vidéo. Mais c'est pas juste une attaque contre la ludologie. En fait, plus que tout, les ludologues étaient attachés à montrer que le jeu vidéo était un art spécifique. Et tant de gens s'obsèdent à montrer que le jeu vidéo est un art, mais c'est toujours pour l'arracher au monde. On cherche à démontrer ça parce qu'on a besoin de légitimité auprès de ses proches, des institutions, parfois juste parce qu'on a consacré trop de temps au jeu vidéo dans notre vie, trop de notre personnalité, et qu'on a besoin qu'il soit à la hauteur. Et pendant 20 ans, on s'est accroché à une conception lacunaire du jeu vidéo parce qu'elle nous donnait ça. À chaque fois, l'art devient une espèce d'absolu abstrait à atteindre et on ne s'intéresse plus aux endroits où le jeu vidéo revient au monde. C'est précisément ça qui nous manquait. C'est ça qui devrait nous intéresser, qu'il faudrait étudier, que les cultural studies déjà essayaient de décortiquer. Et peut-être qu'il faut juste, enfin, lâcher cette question de l'art et du jeu vidéo. Parce que c'est quand on la lâchera qu'on commencera à dire des trucs intéressants à son sujet. Et c'est peut-être là aussi exactement que le jeu vidéo devient vraiment artistique.
Merci beaucoup et merci H pour cette chronique vraiment passionnante. Et c'est intéressant parce que je retrouve des choses que je vois de mon point de vue. J'ai fait la plaisanterie tout à l'heure, mais effectivement, moi, je me considère plutôt comme une narratologue encore aujourd'hui et malgré, entre guillemets, la fin du débat. Et quelque part, l'opposition que tu montrais, je la vois aujourd'hui vis-à-vis de la manière que j'ai, moi qui proviens de l'analyse littéraire, d'analyser le jeu vidéo avec l'opposition avec la manière dont ça se fait en sciences de l'information et de la communication. Et pour moi, c'est justement c'est ce qui fait que j'ai tendance à affirmer face à la fois à mes collègues en littérature et face à d'autres collègues que le jeu vidéo est un œuvre d'art, parce que pour moi, ça légitime la méthodologie avec laquelle je l'étudie, à savoir justement la recherche d'interprétation, à la fois dans le gameplay, dans la narration, dans les images, dans la musique, dans tous les éléments qu'il compose et non pas simplement l'étudier comme un produit, un processus de communication, comment est-ce que je peux dire ça ? De la même manière qu'on étudierait par exemple la publicité ou voilà, pour moi il y a quelque chose de plus qui fonctionne au niveau de l'interprétation d'une certaine représentation du monde d'un point de vue politique en fait, voilà, même si c'est pas nécessairement de la politique mais du politique, une certaine représentation de la société, et le fait de parler du jeu vidéo en tant qu'œuvre d'art, pour moi c'est une manière de légitimer cette approche-là qui n'est pas juste une approche de comment est-ce que ça communique, comment est-ce que le récepteur communique avec l'œuvre, mais bien voilà, déjà de parler d'œuvre, ce qui n'est pas anodin. Et du coup, c'est très intéressant ce que tu fais parce que, enfin pour moi en tout cas, parce que finalement en affirmant le contraire de ce que j'affirme, tu rejoins les mêmes conclusions. Et je trouve ça du coup très intéressant de voir qu'en fait, voilà, on cherche la même chose avec des termes différents au final.
Azur, je te laisse.
Yes, bah merci pour cette chronique. Et bon, j'ai l'impression que c'est la thématique du podcast sans le vouloir, mais c'est vrai que le jeu vidéo, œuvre d'art, enfin, il est temps d'en sortir, et même à tous les niveaux. Enfin, aujourd'hui, moi, en ce moment, je suis tombée sur un ouvrage qui s'appelle « Jeux vidéo, l'industrie culturelle du 21e siècle ». Donc de Pierre-Jean Bengosi et Philippe Chantepie, j'espère n'avoir écorché le nom de personne, et donc je crois que c'est un des premiers livres en français, en plus, qui traite de l'industrie du jeu vidéo, vraiment en tant qu'industrie et de création de produits. Et c'est hyper intéressant parce que c'est un des champs qui, je trouve, est trop délaissé, et est trop délaissé par les motivations que tu soulignais, donc l'envie de justifier, de tout le temps se justifier. Enfin, maintenant, le jeu vidéo a à peu près 70 ans et commercialement, on va dire 50 ans. Oui, ça ne nous rajeunit pas. On n'a pas connu forcément l'époque de l'arcade, mais ça a toujours été, en fait, une des entreprises, la plupart du temps, en fait, qui ont créé des jeux, et sinon, tout le reste, c'était des personnes qui étaient indépendantes ou en très petite structure. Donc, ne se concentrer que sur la forme artistique du jeu vidéo, ça limite forcément les angles avec lesquels on peut le traiter. Donc, c'est chouette de revenir sur l'origine de tout ça, et espérons qu'à l'avenir, on puisse creuser davantage les autres questions. Je ne sais pas si, pendant tes recherches, tu as pu, par exemple, voir d'autres champs qui apparaissaient en supplément de ceux qui étaient déjà existants, justement avec ces avancées, ce recul qu'on peut avoir sur les limites qu'on s'était fixées pour X ou Y raisons.
Fanny, tu voulais réagir aussi ?
Merci pour cette chronique, parce que moi, ça me renvoie aussi à beaucoup de choses dans mon champ de recherche. Et justement, il y a quelques jours, je lisais l'intro d'un livre qui va bientôt paraître en ludomusicologie et qui commençait justement par « Il y a 5 ans, vous aurez peut-être commencé ce livre en disant, en prouvant par A plus B que la musique de jeu est un art digne de Beethoven. Mais cette fois, on ne va pas s'emmerder parce qu'on a dépassé ça. Alors voici les sujets, parce qu'on a plus important à traiter. » Et j'ai trouvé que c'était encourageant qu'on ne se justifie plus, qu'on dise qu'on se serait peut-être justifié, mais qu'on n'avait plus besoin de le faire, et peut-être qu'un jour, on ne le fera plus du tout. Et en musicologie, à vrai dire, on a aussi eu ce même problème, même pas au niveau du jeu vidéo, à savoir que pendant très longtemps, on analysait vraiment l'œuvre en tant qu'œuvre de façon très... très compliqué, avec un langage très spécifique qui était vraiment le point de vue du scientifique sur l'œuvre, et il était tout seul dans sa tour d'ivoire, etc. Et c'est seulement vraiment à la fin du XXe siècle, en fait, qu'il y a des musicologues qui ont commencé à dire « Ouais, mais en fait, on étudie la musique d'une manière tellement abstraite que ça n'a pas forcément de sens, alors que ça serait quand même vachement plus intéressant si on étudiait les auditeurs. » Et donc là, c'est là qu'on a commencé à avoir une grosse cassure, ou avec la sociologie de la musique, etc., qui ont apporté beaucoup et qui, en fait, ont été quasiment des débats de société, parce que c'est quoi l'intérêt de s'intéresser à des gens qui ne savent pas parler de musique, ce qui est très méprisant. Donc voilà, je pense qu'on a un peu les mêmes problématiques qui se retrouvent au fil des disciplines, et ça fait plaisir de voir que ça bouge et qu'il y a de la critique dessus.
On passe tout de suite au blind test. Qui sera présenté cette fois-ci par Alice. Qu'est-ce que c'est le thème du blind test de ce mois-ci ?
Alors, je vous ai concocté un petit blind test sur le thème coop local, parce que je me suis dit quelles sont les musiques qui m'ont marqué. Et alors, voilà, bah, vous le savez déjà, je crois que je l'ai déjà évoqué ici, et notamment face à Fanny, pas taper s'il te plaît. Les musiques, moi, ça ne me marque pas beaucoup, sauf si elles sont vraiment très très mauvaises ou très très bonnes. Et donc, j'ai cherché un peu les choses qui me revenaient en tête. Et donc, j'ai pensé à ces jeux, en fait, qu'on pratique beaucoup, parce qu'on les fait à plusieurs et que ça devient un moment de convivialité. Donc, je vous ai sélectionné quelques jeux de coop locale, tous plutôt récents, voire très récents. Je vous laisse découvrir cela. Alors, c'est un jeu où on peut jouer jusqu'à 3.
C'est Trine.
Oui, tout à fait.
J'y ai trop joué.
Alors, quel numéro ?
Alors, j'ai pas l'impression de connaître cette musique. Je reconnais le style. Je crois que c'est Arik Pulkkinen qui a
tout
composé. C'est le 3.
En l'occurrence, c'est le 4.
Ah, c'est le 4. Ouais, c'est un des deux que j'ai pas fait.
Et donc, c'est effectivement composé par Arik Pulkkinen et donc un jeu de Frostbite. Et le numéro 4 est sorti en 2019. Et c'était, pardon, le morceau s'appelle Storytime. Alors, l'indice principal ici, c'est qu'on joue avec des bras.
Ah. C'est pas trop bonne chance, j'imagine.
Non.
Est-ce que c'est... J'ai l'impression de voir, mais je me rappelle plus du titre. Est-ce que c'est par des Français?
Oui.
Ah non, j'ai sur le bout de la langue.
J'ai peut-être une idée. C'est pas Ivo?
Si, tout à fait, c'est ça.
Ah oui.
Un jeu français né d'une game jam, donc développé par le Cartel Studio, est sorti en 2019. Et c'est un jeu donc où on a des personnages qui ont juste des bras et qui peuvent s'accrocher aux différents éléments du décor et faut réussir à coopérer pour se déplacer à travers ces environnements en s'accrochant avec les bras. Et c'est très amusant. Et c'est la musique, donc c'est, le morceau que je vous ai passé s'appelle Through the Mountains et a été composé par Camille Giraudeau. On est dans un univers plus urbain et il s'agirait plutôt d'un roguelite.
Est-ce que c'est un Streets of Rage ?
Presque. Le titre ressemble beaucoup, mais ce n'est pas le bon mot sur la fin.
Ah.
Un jeu de 2019, développé en indépendant par un développeur solitaire. C'était un morceau du jeu Streets of Rogue, qui est donc très inspiré. Par les roguelites, par Streets of Rage, et donc c'est un morceau, c'est la musique pardon du deuxième niveau du deuxième monde. Le morceau s'appelle Swamp et a été composé par Craig Barnes et c'est un jeu donc développé par Matt Dabrowski. Si je vous dis que c'est un jeu de cuisine.
Overcooked ?
Oui, tout à fait.
Ouais, j'en ai eu un.
J'arrivais plus à trouver le nom du jeu.
C'est effectivement un morceau donc, d'Overcooked 2 qui s'appelle Buffet Balloons, composé par Oliver Wood. Et donc Overcooked 2, là on est en 2018, vous voyez les trois premiers étaient 2019, là 2018 on reste dans le très récent. Et donc développé par Ghoston Games. Il s'agit d'un jeu coop développé par un studio québécois, plus récent parce que ça date de 2022, qui est aussi une sorte de roguelite. On joue un équipage sur un bateau.
Est-ce que ce serait Ship of Fools? C'est plus
Tout à fait.
les indices qui m'ont aiguillé.
C'est bien ça, c'est Ship of Fools, et le morceau s'appelle Floating on Murky Waters, composé par Philip Brandt. Et donc Ship of Fools est un jeu de Fika Productions, sorti en 2022. Et pour le dernier morceau, on va aller sur un mode un peu plus joyeux en termes musicaux. Là, ça relève plutôt du party game.
Ah, c'est pas... pas Fall Guy.
Non.
En tout cas, ça bouge bien.
Donc c'est un party game, c'est ça?
Oui.
C'est ce que tu disais? Est-ce qu'il y a un visuel mignon ou pas avec?
Tout à fait, il y a un visuel très mignon.
Bon, je vais peut-être dire une grosse connerie. Boomerang Fu?
Tout à fait, bien joué!
J'avais pas Overcooked, mais bon.
Donc c'est bien un morceau de Boomerang Fu qui s'appelle Ready Up, composé par Paul Kopetko. Et c'est un jeu de Cranky Watermelon qui est sorti en 2020, où il faut donc s'assassiner avec des boomerangs. Et je crois que, si j'ai bien compté, la grande gagnante est Azura. Félicitations.
Ouais. C'est pas du Japon.
Bravo.
Pourtant, c'est pas japonais. Hein.
Eh bien, merci beaucoup pour ce blind test, Alice, et pour toutes ces recos au passage de petits jeux coop cool local, parce qu'on n'en a jamais assez. Vous avez donc écouté Une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up et diffusée sur Radio Campus Paris. Nous remercions Lya d'avoir été avec nous au cours de cette émission, et puis toutes nos chroniques heureuses. Et enfin, on se quitte sur un petit morceau, Megalomania, et pas Megalovania, de Yoko Shimomura, pour l'OST du culte RPG qui a été remaster récemment, Live Alive.